Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, direction l'Angleterre, en 1588, la reine Elisabeth, face à l'invincible Armada, un combat européen.
Au cœur de l'histoire.
Eyes to the right,
à droite, 202 voix pour le oui.
The nose to the left,
à gauche, 432 pour le non.
Theresa May vient de vivre une défaite historique, la pire jamais subie par un Premier ministre britannique. Elle encaisse le coup et promet d'ouvrir des discussions avec les partis d'opposition.
Le gouvernement abordera ces discussions dans un esprit constructif, mais vu l'urgence d'avancer, nous devons nous concentrer sur les idées susceptibles d'être renégociées et recueillant un soutien suffisant au Parlement.
Theresa May, chahutée face à la Chambre des Lords, mais Theresa May qui incarne la souveraineté britannique, le désir d'indépendance de ce pays. Comment ne pas la comparer avec une de ces autres femmes qui, à un moment donné dans l'histoire, a elle aussi incarné l'indépendance et la souveraineté britannique? Celle qui s'impose, aux yeux de tous évidemment, c'est Elisabeth. Elisabeth Ière d'Angleterre. Nous sommes au cœur du XVIe siècle et cette femme va se dresser et faire tenir la Grande-Bretagne face à la grande puissance de l'époque, la grande puissance continentale, comparable peut-être à l'Union européenne actuelle, celle qui constitue un empire, l'Espagne de Philippe II. L'affrontement va avoir lieu sur un terrain, la mer, en 1588, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes la nuit, entre le 7 et le 8 août 1588. Le lieu, c'est une baie, tout près des côtes françaises, et d'une petite ville, un petit port de la Manche, qui s'appelle Gravelines. Tout pourrait sembler silencieux, on entend le ressac qui choque les coques de quelques bateaux. Un peu masqué par la nuit et l'ombre, des marins anglais s'activent. Chacun d'eux porte des tonneaux de poudre, d'autres des mèches, d'autres encore des liquides inflammables. Ils sont en train de préparer 8 bateaux. 8 navires dont on a gardé les voiles, dont les barres vont être bloquées dans une seule direction pour profiter du vent, et qui bientôt vont être mis en flamme. On appelle cela des brûlots dans le langage maritime. Des bateaux qui sont lancés contre des adversaires afin d'y semer le désarroi et le feu. Et les marins anglais, avec leur amiral, Francis Drake, ont un objectif. Détruire la flotte espagnole qui se trouve dans la baie de Gravelines. Au milieu de la nuit, alors que les Espagnols sont assoupis, les voiles sont incendiées, les derniers marins quittent les navires et on lance les brûlots à l'attaque de l'armada espagnole. Changement de camp. Nous sommes maintenant sur le pont des navires espagnols. Quelques guetteurs ont été laissés qui, soudain, au milieu de la nuit, lancent des cris. Ils ont aperçu les navires en flammes qui se dirigent à toute vitesse vers les 130 navires dirigés par l'amiral Medina Sidonia, désigné par le roi Philippe II. C'est un chaos indescriptible. Les marins sont réveillés en urgence. Il faut trancher les amarres, essayer de faire partir les bateaux le plus vite possible pour qu'aucun ne soit enflammé et ne transmette à son tour les flammes à un autre navire. Aucune coordination n'est possible dans le chaos que traverse la flotte espagnole. Les navires se dispersent, les uns partent au vent, les autres décident de remonter. Bref, cette grande armada, d'un coup, n'est plus que miette au vent. Les Anglais ont réussi leur coup. Retour dans le camp anglais. Sir Francis Drake, le commandant, l'amiral de la flotte britannique, a très bien compris ce qui se passe. Il s'agit, avec le gros de ses forces désormais, de défaire les bateaux qu'ils pourront trouver sur leur chemin, de les canonner jusqu'à ce qu'ils coulent. Ce dernier engagement, cet engagement final de la flotte britannique, permet de liquider ce qui restait de l'invincible armada. Le nom invincible armada, sera d'ailleurs gardé par les Britanniques en forme d'ironie pour désigner cette magnifique troupe que Philippe II avait voulu dresser contre elle. Les Anglais sont donc sortis 2 fois vainqueurs de la bataille de Gravelines. La première fois en réussissant à disperser la flotte espagnole, la deuxième fois en la bombardant avec ses canons. Pour le duc de Medina Sidonia, qui commandait la flotte espagnole, le coup est dur. Il lui faut maintenant informer son souverain, le roi Philippe II, de la terrible défaite que vient de subir l'Espagne. Voici le mot qu'il écrit. Je suis incapable de décrire à votre majesté les infortunes et les malheurs qui nous ont accablés, parce qu'ils sont les pires que personne n'ait rencontrés durant aucun voyage. Et certains des navires que nous ramenons dans ce port ont passé les 14 derniers jours sans une goutte d'eau. Medina Sidonia semble surpris de ce qui s'est passé, et pourtant, il aurait pu tirer les leçons du passé. Car le conflit entre Élisabeth et Philippe n'est pas nouveau et ce n'est pas la première fois que les Anglais surprennent les Espagnols. Pour bien le comprendre, il faut revenir justement sur cet antagonisme, un affrontement à la fois dynastique et idéologique. Au milieu du XVIe siècle, la tension est à son comble entre l'Espagne et l'Angleterre. Philippe II est monté sur le trône en 1554, Élisabeth en 1558. Il est donc son aîné. Mais surtout, Philippe considère qu'Élisabeth est une enfant illégitime, engendrée hors mariage, née de l'union entre Henri VIII et Anne Boleyn. Comment peut-elle être sur le trône? Comment cette femme peut-elle être sur un trône qui en réalité aurait dû appartenir aux descendants de Catherine d'Aragon, c'est-à-dire à Marie Tudor, et donc à ses éventuels descendants ou collatéraux? Elle, cette demi-sœur quasi bâtarde, que fait-elle sur le trône? Voilà pour l'antagonisme dynastique, mais il y a aussi l'antagonisme idéologique. Il faut se souvenir que Henri VIII, le père d'Élisabeth, a décidé de rompre avec la papauté pour créer sa propre église, l'église anglicane. Élisabeth règne donc sur une église qui est pratiquement protestante. De l'autre côté, Philippe II, lui, se ressent comme le grand défenseur de la catholicité universelle. Il est le bras armé de la papauté. L'Angleterre est donc un ennemi à combattre, un ennemi à défaire, d'autant plus que dans ce royaume vivent aussi des catholiques qui sont persécutés par cette reine. Il s'agit donc de rétablir une forme de justice. Ce conflit idéologique devait forcément déboucher sur une action militaire. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui relève de la propagande, la reine arrivée par usurpation, en réalité ne doit pas masquer le profond respect et la crainte qu'inspire Élisabeth en Europe. Celui qui le dit le mieux, c'est le pape, Sixte Quint. Voici ce qu'il glisse à propos d'Élisabeth.
Elle n'est qu'une femme, maîtresse de seulement la moitié d'une île, et elle est pourtant crainte par l'Espagne, la France, par le Saint-Empire, par tous.
C'était peut-être le plus beau compliment qu'on puisse faire à Élisabeth que de lui dire qu'elle était crainte, même si sûrement elle rêvait, comme tous les souverains, d'être aimée par son peuple. Mais le différent avec l'Espagne n'est pas seulement de nature politique ou dynastique. Il trouve aussi ses raisons dans le désir que chacune de ces deux puissances a de développer ses colonies et d'accéder aux richesses des nouveaux mondes qui ont été découverts quelques 50 ans auparavant. Le motif commercial est une des clés du conflit entre l'Espagne et l'Angleterre. Le but, ce sont les métaux précieux qui arrivent d'Amérique. L'objectif, ce sont les produits exotiques, les épices, comme on disait alors. Et Élisabeth, dans cette guerre pour obtenir des biens et pour obtenir des richesses, a réussi à trouver un atout. L'arme secrète d'Élisabeth, c'est un homme. Francis Drake. Mais pas n'importe quel homme. Un de ceux qui s'est fait tout seul, à force d'action, ou plutôt devrais-je dire d'exaction. Car Drake, entré tôt dans la marine, a appris la navigation et est devenu capitaine. Il a trouvé sa vocation à partir de 1570 en obtenant ce qu'on appelle des lettres de marque en France, nous dirions des lettres de course, c'est-à-dire une autorisation royale de poursuivre les navires ennemis de l'Angleterre. L'homme avait une âme de pirate, Élisabeth en a fait un corsaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va agir pour le compte de son royaume et mener la guerre contre les Espagnols. Pas n'importe quelle guerre. Une guerre où le but est de capturer les galions ennemis et d'en prendre les richesses. Une guerre où le but est d'interrompre les lignes de navigation ennemies et de se saisir de leurs biens. Et à cela, à ce jeu-là, Francis Drake est devenu maître. À partir de 1577, la guerre de course a été intensifiée par Élisabeth. Son objectif est de couper les lignes de transport de Philippe II, si bien que Drake a dû se charger de nombreuses attaques contre des colonies espagnoles, en Amérique du Sud, mais aussi au Cap-Vert contre les Portugais. Il ne recule devant aucune opération pour bloquer les adversaires. L'un de ses plus beaux faits d'armes en 1579 au large du Pérou est d'avoir pillé un navire espagnol, la Nuestra Señora de la Concepción. À bord se trouvaient 200 000 livres de joyaux et de pierres précieuses, des crucifix, des coffres remplis de réaux d'argent, 26 tonnes encore de ce métal. Le contenu du bateau était estimé à plus de 400 000 pesos, c'est-à-dire une fortune pour l'époque. La légende raconte que Drake était si content que le soir, il célébra cette victoire en invitant tous les membres de son équipage à sa table. Quelques mois plus tard, il s'est présenté avec l'ensemble de ses valeurs devant la reine et cela lui a valu des compliments. Drake aura encore une reconnaissance supplémentaire quelques années plus tard. En 1581, lors d'une cérémonie pleine de magnificence, il est fait chevalier. On l'appellera désormais Sir Francis. Sir Francis Drake. Et c'est cet homme qui va proposer en permanence des plans et des tactiques innovantes pour contrecarrer les plans des Espagnols. Drake serait un peu l'arme fatale d'Élisabeth Ière, comme peut-être il n'y en a pas aujourd'hui pour Theresa May. Mais au début des années 1580, la tension s'accroît encore entre l'Espagne et l'Angleterre. La nouvelle pomme de discorde, ou la nouvelle opportunité, c'est ce soulèvement des Irlandais contre Élisabeth. Élisabeth y mène une répression féroce, si bien que, vu par les Espagnols, ils ont l'impression qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour attaquer cette puissance qui entraîne des soulèvements des catholiques de toutes parts. Regardez ce qu'en dit l'ambassadeur espagnol à Paris en 1580.
La situation du pays est telle, avec des signes de révolte partout. La reine inquiète, le parti catholique en accroissement, les événements d'Irlande, la crainte inspirée par la flotte d'Espagne qu'il suffirait d'un chat pour tout faire effondrer en 3 jours.
Pour Philippe II, le temps de l'action est venu, il faut anéantir cette Angleterre insolente qui n'a de cesse de saboter son royaume par tous les moyens. Il décide donc d'utiliser une stratégie inédite. Il va constituer la plus grande flotte qui ait jamais été rassemblée pour attaquer le pays. Cette armada qui va vaincre l'Angleterre aura la même structure initiale que l'armada qui a remporté la plus éblouissante des victoires espagnoles, la bataille de Lépante. C'était en 1571 et ce jour-là, au large des côtes de la Grèce, les Espagnols avaient vaincu les Turcs. Ils avaient battu l'adversaire diabolique qui, depuis des siècles, défiait la chrétienté. Philippe a donc choisi un de ses grands généraux, le duc de Medina Sidonia. Il lui a confié l'ordre de constituer une flotte d'au moins 500 navires, de rassembler environ 60 000 hommes, de les préparer et ensuite de lancer l'attaque depuis l'Espagne. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les services secrets britanniques existent déjà et ces renseignements remontent jusqu'à la reine d'Angleterre. Élisabeth est donc consciente de l'attaque qui la menace. Elle sait que se prépare, dans le port de Cadix, dans ses arsenaux espagnols, toute une flotte qui va un jour s'abattre sur elle. Élisabeth, à cette époque, a 48 ans. Elle est au fait de son pouvoir en Angleterre. Elle n'est plus cette reine vierge dont on parlait avec une espèce de dévotion amusée et qui collectionnait les prétendants avec l'espoir que l'un d'entre eux, un jour, deviendrait l'homme de sa vie. Elle est une femme dans la maturité, une femme rouée aux stratégies et aux calculs, une femme de guerre. Les Anglais doivent donc trouver une stratégie pour anticiper l'attaque. Est-ce Sir Francis Drake qui a eu l'idée, ou la reine Élisabeth ? Toujours est-il qu'entre l'amiral et le souverain, naît une idée assez logique. Celle de tenter un coup d'attaque, comme ce que Drake a pu mener en Amérique latine. Rappelez-vous, en 1586, alors qu'il luttait contre les forces espagnoles, Sir Francis Drake n'a pas hésité à se précipiter sur la capitale espagnole d'Amérique latine, sur Carthagène, à y défier les navires et les canons de la côte et à remporter une splendide victoire. Et si l'on pouvait reproduire la même tactique? Est-ce vraiment possible? Serait-il possible qu'une flotte anglaise longe les côtes espagnoles, s'engouffre dans le golfe, pénètre dans Cadix et y bombarde la flotte espagnole? Est-ce que cela est possible? Le plan est conçu. Avec ses services de renseignement, Francis Drake a obtenu un plan de Cadix qui lui permet de se reconnaître et de manœuvrer. Le 19 avril 1587, vers 5h de l'après-midi, de gros navires remontent en direction des arsenaux. Les guetteurs qui les voient n'y prennent pas garde d'abord. Les marins même qui les voient approcher du port se demandent à la silhouette de quelle nationalité sont ces navires. Personne n'ose penser que des Anglais pourraient être là. Et soudain, en plein milieu des activités, alors que certains badauds s'arrêtaient pour regarder ce qui se passait dans le port, la canonnade éclate. Les boulets de canon ravagent la ville de Cadix. 33 navires sont coulés en quelques minutes. Un incendie est déclenché qui enflamme les arsenaux et les magasins. C'est un véritable coup de corsaire qui a été réussi. Francis Drake dira alors que ses propres navires s'éloignent de ce carnage, « J'ai bien roussi la barbe du roi d'Espagne ». Bien sûr, toute la flotte espagnole n'a pas été détruite dans ce coup, mais elle porte au moral des troupes une véritable atteinte. Philippe II comprend qu'il doit essayer de trouver une autre méthode, que le temps pour composer sa splendide armada sera beaucoup trop long. Il change donc de méthode. Il va falloir construire une armada un peu plus petite qui partira d'Espagne, mais qui trouvera ensuite le soutien de l'autre partie de son empire dans les Pays-Bas et qui, à ce moment-là, aura une force suffisante pour attaquer l'Angleterre. Deux étapes au lieu d'une. Cela devrait réduire la fragilité de la ligne de transport entre l'Espagne et le rivage britannique. Cela donnera en quelque sorte une base arrière. Alexandre Farnèse, le gouverneur des Pays-Bas, a été prévenu. Il a mobilisé les troupes et les forces nécessaires, lui aussi a préparé des bateaux, donc l'attaque pourra avoir lieu. En mai 1588, la grande armada de Philippe II est prête et se met en route vers les rivages des Pays-Bas avant l'offensive finale contre l'Angleterre. Elle bénéficie alors de vastes atouts, beaucoup plus nombreuses en hommes, beaucoup plus fortes en nombre de vaisseaux et peut-être même que l'ensemble de son armement est plus puissant que celui des navires britanniques. Mais ce que les Espagnols sous-estiment, c'est que Francis Drake, enfin coursier des mers, a quelques avantages, quelques atouts. Il dispose de 34 navires de ligne. Ces navires sont très différents de ceux des Espagnols. Les navires espagnols sont de gros galions qui ont été réarmés, préparés pour le combat, mais qui ont une relative lenteur au déplacement. Par ailleurs, leur charge en termes d'artillerie, est beaucoup plus légère que celle des Anglais. Leurs canons tirent moins loin et sont moins nombreux. Drake, lui, pourra les pilonner à distance avec son artillerie puissante. Et il pourra par ailleurs échapper à la riposte en s'éloignant grâce à la vitesse de ses navires. Les Espagnols comptent sur l'abordage qui est leur point fort. Ils sont plus nombreux, donc ils comptent se rapprocher des Anglais et débarquer sur leur bateau et donc à ce moment-là gagner au corps à corps la victoire. Les Anglais, eux, ne fourniront jamais aux Espagnols l'occasion d'un corps à corps, se contentant de tirer à distance et de fuir si jamais ils approchaient trop. En termes stratégiques, en réalité, l'Angleterre a un coup d'avance. Et c'est ce qui explique la victoire qui va se dérouler et qui va se produire à Gravelines. Alors bien sûr, elle ne s'est pas jouée en un jour. Et donc, au mois d'août 1588, quand a lieu la bataille de Gravelines, les 30 000 hommes, les 2500 canons, les 125 000 boulets, les 80 000 tonnes de poudre de la marine espagnole ne pourront pas donner toute leur puissance. Terrible déroute d'un ennemi qui se croyait supérieur. Medina Sidonia ne parviendra pas à rallier les troupes hollandaises, à reformer une deuxième force pour essayer d'envahir l'Angleterre. Il a eu de terribles pertes humaines et matérielles. Il lui faut donc renoncer et Philippe II n'a pas d'autre choix. Côté britannique, deux semaines après la bataille de Gravelines, le 19 août 1588, la reine Elisabeth se rend au camp de Tilbury, non loin du port de Londres. Comme toujours, coiffée de sa belle perruque rousse, le visage peint comme une icône, la reine s'approche de ses soldats. Elle va prononcer un discours qui est devenu historique et qui est entré dans les annales. Ce discours, en voici le principal passage.
Me voici donc au milieu de vous, non pour me divertir ou assister à une parade, mais pour vivre ou mourir avec vous, mettant en jeu, pour Dieu, pour mon royaume et pour mon peuple, mon honneur et mon sang. Je sais que je n'ai que le corps d'une faible femme, mais mon cœur et mon courage sont ceux d'un roi et par-dessus tout d'un roi d'Angleterre. Je défie Parme, l'Espagne et tout prince d'Europe qui oserait envahir mon royaume. S'il le faut, plutôt que de subir la honte et le déshonneur, je prendrai moi-même les armes. Je récompenserai chacune de vos actions d'éclat sur le champ de bataille. Je sais que votre vaillance mérite récompense et couronne. Je vous promets, en foi de reine, que vous les aurez.
La victoire de la flotte anglaise est célébrée partout en Angleterre. Les cloches des temples et des églises sonnent, des discours et des sermons sont faits par les ecclésiastiques. Bref, la nation va voir dans cette victoire quelque chose de fondateur. Cet événement est tellement fondateur qu'il existe un portrait de la reine Élisabeth intitulé « Portrait à l'Armada ». On y voit la reine Élisabeth dans son cabinet et au second plan, un tableau qui représente les navires espagnols et la flotte britannique au combat. Juste devant est posée la couronne de la reine. Elle se tient en ayant sous sa main droite le globe, comme si désormais elle était devenue la reine de la terre entière. Et elle porte beau avec sa robe noire et argentée, sur laquelle ont été cousues par dizaines des perles, comme des symboles de sa puissance arrachée sur l'océan. Et sous sa perruque rousse, son regard éteint semble laisser passer un léger sourire. La victoire contre l'invincible Armada marque donc un tournant et l'avènement d'une nouvelle puissance britannique. On comprend pourquoi il existe aussi, en Europe, une forme d'inquiétude aujourd'hui à voir se retirer la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni de l'Union européenne que l'on pensait, naguère, si puissante. Et si le changement britannique marquait lui aussi le changement d'une époque? Et si l'action de Theresa May était un tournant vers un avenir où l'Angleterre retrouverait une place qu'elle a longtemps occupée, la première? Voilà, cet épisode est terminé. Un remerciement particulier à Simon qui nous a soumis cette idée de faire une émission sur Élisabeth Ier.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.